revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 10, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, et bien un sommaire avec des redites et quand même des trucs rigolos.
Des trucs très rigolos, dont le premier, Balmer et le logiciel libre, Linux en tout cas. Puis des redites, comme le deuxième, le reconditionnement des ordinateurs, et puis ensuite l'open hardware, une infographie sur l'open source, le fisc, les filles dans les métiers techniques, les métiers numériques, et finalement un petit truc sur les tsunamis et les geeks, assez sympa.
Développé.com, Steve Ballmer aime Linux, l'ancien PDG de Microsoft change d'opinion sur Linux. Un article de Michael Guillou.
Changer d'opinion ou vraiment complètement, mais vraiment dire le contraire de ce qu'il avait dit avant.
Alors pour rappel, c'est quand même lui qui avait dit que Linux était le cancer dans l'informatique. Hein.
Ouais, on aime bien rappeler ça.
Voilà, et effectivement, il s'était bien gavé avec Microsoft, hein, qui a fait plein de bénéfices avec du logiciel bien fermé, et maintenant change complètement de position, et même Microsoft commence à publier du code, à publier
Debian. C'est le nouveau patron, hein. Steve Ballmer donc, a été le patron de Microsoft à la suite de Bill Gates, hein, qui est parti il y a quand même un petit paquet de temps. Il est resté, donc Ballmer, 15 ans, 14 ans à la tête de Microsoft. Et lui, c'était vraiment l'héritage. Il était dans la vieille stratégie vraiment super fermée, brutale. Et son remplaçant a effectivement pris un tournant open source évident. Et donc Ballmer avait fait cette déclaration fracassante du cancer de l'informatique. Et là, en gros, il dit « bon, en fait, non ».
En fait, pas du tout, même. Hein, au contraire, le logiciel libre, c'est bien. Enfin, l'open source, en tout cas, on va en faire parce que c'est la bonne direction, il faut aller dans cette direction-là. Il y a des articles secondaires en plus qui abordent le sujet. Microsoft intègre la fondation Eclipse et utilise des licences libres pour sa base de données phare, SQL Server, des licences gratuites en tout cas, pour essayer de casser les genoux à Oracle, hein, son gros concurrent sur le domaine.
Donc Ballmer, hein, quand même, ne dit pas j'avais tort, parce que c'est pas du tout l'idée. Donc voilà, ouais, Ballmer dit que c'était le truc à faire à l'époque et que grâce à lui, Microsoft a gagné des tonnes d'argent et que c'était extrêmement important pour le flux de revenus de l'entreprise et de garder sa position dominante. On rappelle, je sais pas où vous en sont aujourd'hui, mais à l'époque, on parlait de 80% de marge sur Windows et sur la suite Office. C'est monstrueux. Et voilà, ouais, en gros, tant qu'ils étaient en position dominante et qu'ils pouvaient s'installer, ils l'ont fait. Ballmer, qui n'a jamais été réputé pour sa subtilité, explique clairement que c'était les plus forts et que ils faisaient marcher la machine à cash et qu'il était hors de question de changer quoi que ce soit parce qu'à l'époque, c'était pas le moment de le faire. Donc je trouve ça assez clair et net, au moins de sa part.
C'est la grosse différence de philosophie, hein, justement, entre l'open source et le libre. Hein. C'est vrai que les open sources sont
pragmatiques.
Voilà, il y a du blé à se faire.
Il n'est pas open source plus. Arrête.
Voilà. C'est pragmatique de sa part aussi. Hein. Il dit qu'à l'époque, c'était plus rentable de rester en position dominante et d'essayer d'écraser tout ce qu'il y avait autour.
Ouais, il veut juste pas se dédire. Ils auraient pu faire du libre comme aujourd'hui ils le font, c'est-à-dire que les briques techniques, ils les passent petit à petit à des éléments un peu plus communautaires. Ça leur permet de s'implanter sur d'autres systèmes d'exploitation que Windows. Effectivement, à l'époque, Windows c'était une sorte de terre sacrée. Il fallait surtout pas risquer de perdre cette dominance. Mais aujourd'hui, notamment avec les téléphones portables, hein, ils l'ont perdu, ils le savent. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation dominants, c'est Android, donc du noyau Linux, de fait. Donc le libre a gagné sur ce plan-là. Et c'est une manière de survivre, hein, de continuer à survivre, c'est de dire, nous, on va permettre à nos briques importantes, SQL Server, Office et d'autres, de s'implanter sur des briques qui ne sont pas Windows.
Donc il met en avant l'argent gagné et ça lui permet de cacher les erreurs stratégiques parce que Microsoft a quand même pris...
ils ont pris très cher.
Voilà, ils ont quand même fait pas mal d'erreurs.
Ils ont fait pas mal, ouais.
En tout cas, là, ils ont l'air d'avoir pris une option différente. Alors évidemment que de l'enfermement de l'utilisateur, hein, comme les autres. Et ça, c'est là où la nouvelle n'est pas si bonne que ça. Développé.com, comment œuvrer pour l'e-inclusion en reconditionnant des ordinateurs avec Linux. Un article d'IDFX qu'on avait déjà évoqué, le même auteur qui était la semaine dernière ou il y a 15 jours.
Et le même sujet, carrément. La semaine dernière, c'était un peu plus précis sur une association en particulier. Et là, eh bien, il déroule un petit peu les types d'associations qui existent. Il les cite, hein. Linux Quimper, Ordi Libre de l'Arré, TOT, Alice 44, Calis. Il y en a d'autres. Donc, c'est intéressant. Et notamment, c'est intéressant si vous voulez reconditionner des ordinateurs. Vous avez des vieilles bécanes qui tournent encore. Eh bien, plutôt que les jeter, autant les offrir et les reconditionner. Et puis, si vous-même, vous n'avez pas forcément d'ordinateur sous le coude ou vos enfants ou des gens que vous connaissez, eh bien ces associations peuvent vous aider à avoir des matériels tout à fait efficaces avec du libre en général, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, et qui vous coûtera pas un bras, tout simplement, ça peut être très sympa.
Voilà, parce que c'est vraiment le but de ces associations-là, hein, c'est de réduire la fracture numérique, ça marche très très bien, il n'y a pas de sous-ordinateur ou autre, Windows réclame des machines très surpuissantes par rapport aux besoins, alors qu'un petit Linux, ça marchera très très bien et vous ferez largement ce que vous avez besoin avec des machines qui dépassent à peine les 200 euros.
Voilà, puis si vous êtes un libriste, informaticien, actif dans une association et que ce genre d'activité vous intéresse, je pense que vous pouvez aussi contacter ces assos. Je crois savoir que notamment Alice 44 avait été montée par quelqu'un qui a déménagé et qui du coup a fait Snalis derrière, donc avec cette idée de repasser la main et de faire vivre ce genre de structure, et c'est génial que ça se développe.
Là au moins on peut parler d'économie solidaire, hein. Il y a vraiment un partage, on redonne à la communauté, c'est quand même vraiment bien.
Usine digitale, libérez vos objets connectés avec l'open source et l'open hardware, un article de Julien Bergouhou.
Donc ça fait partie de la grosse mode de l'internet des objets ou les objets connectés, vous en avez partout maintenant, on connecte tout et n'importe quoi.
Dans les voitures, dans les ascenseurs, dans les chaussures,
les fontaines à chat, les brosses à dents, enfin il y a de tout et n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi d'ailleurs. Et en fait, tous ces systèmes-là reposent...
Du n'importe quoi pas sécurisé.
Ou pas sécurisé en plus. Le gros intérêt de ça, c'est que la plupart de ces objets-là sont sur des bases Linux, ou en tout cas de l'open source et de l'open hardware. Du coup, tous les gros fabricants et toutes les grosses structures se lancent là-dedans parce que du coup, ça génère du cash, hein, c'est clairement l'objectif. Mettre en avant l'open source sur ce genre de sujet qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace, beaucoup plus accessible que les versions privateurs.
T'as une vraie mise en commun des compétences, des technologies, et là, clairement, je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Tout le monde va se retrouver avec de l'informatique embarquée chez soi, hein, même les radiateurs vont contenir ce genre de choses, et ça peut aller vraiment loin. Donc là, ils parlent de gros sous. Vraiment, il y a des sommes considérables, il y a des grosses boîte qui se met derrière, Accenture hein, par exemple, pour ne pas les citer, donc c'est pas des gentils à la base, hein, c'est des gens qui sont là pour en profiter et ils vont en profiter.
Accenture c'est quoi? C'est quel genre de boîte?
C'est une grosse SS2I.
Non, c'est une boîte où pour monter il faut se prendre des baffes. Donc en gros, et si tu montes pas, on te vire. C'est-à-dire que vraiment, au bout de 2 ans, si tu n'as pas changé d'échelon, ils le revendiquent, hein, ça a peut-être changé, c'est peut-être plus que 18 mois maintenant, si tu n'as pas changé d'échelon au bout de 2 ans, on te vire. C'est normal, c'est l'optique de ce genre de boîte, c'est pas des gentils, mais en même temps ils peuvent être efficaces et l'efficacité c'est d'utiliser du libre pour faire de l'embarqué, donc on aime bien.
C'est typiquement le genre de gens qui mettaient en avant le propriétaire il y a quelques années et qui tournent kazakh. Preuve que l'open source en tout cas est devenu super mainstream, on aimerait que ce soit libre. Il reste beaucoup beaucoup de travail de ce côté là ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est qu'ils évoquent la question de la maintenance en disant que tout ce matériel d'ici 2020-2025 va poser des vraies questions de maintenance et que cette question d'ouverture permettrait de faire cette maintenance à moindre frais et que sinon ça va être ingérable et que ça va coûter une fortune.
Ouais, parce que la grosse différence avec version les PC qu'on peut avoir standard ou autre, c'est qu'une fois que votre fontaine à chat ou votre ampoule est connectée, et il n'y aura plus de mise à jour du fabricant. Donc si la communauté n'est pas derrière pour assurer ça, vous allez vous retrouver avec des grosses failles de sécurité ou des gros problèmes de maintenance.
Alors il y en a déjà, je suis tombé sur un article dans un hôtel où en gros ils ont mis des trucs Android pour pouvoir gérer les ampoules, tous les machins, etc. Et il y a un hacker qui est arrivé dans cet hôtel là et qui s'est aperçu que très facilement il pouvait plus arrêter le système et commander tout dans tout l'hôtel, c'est-à-dire qu'il avait accès à toutes les commandes de porte, de chauffage, de lumière, de tout n'importe quoi. Il pouvait allumer, éteindre tout ce qu'il voulait dans l'hôtel.
C'est connecté surtout.
Voilà, il était assez effaré. Un exemple, dans l'industrie, dans la boîte pour laquelle je bosse, on déploie des systèmes dans des bus. Et j'ai des collègues qui, pendant un an, ont été obligés de batailler avec le constructeur parce qu'ils avaient des bugs et qu'ils avaient le soupçon que ça venait du calculateur qui pensait vieillissait assez mal. Et c'était un an de guerre de tranchées pour leur faire admettre que ça venait de chez eux. Et eux-mêmes ont été mis sur le grill par leur chef en disant votre truc ça marche pas, etc. C'est là qu'on voit à quel point ça peut être important pour une activité quelconque d'avoir la main, de comprendre, d'avoir le pouvoir sur son matériel. Informatique News, l'open source en une infographie, un article de la rédaction. Donc là, pas grand-chose à dire, c'est des chiffres, quoi.
Oui, c'est juste un tout petit article, en plus.
Oui, c'était parce que ça permet d'avoir une infographie. Oui, j'aime bien, ça parle tout de suite. C'est des gros chiffres mis sur un dessin, avec une organisation de la lecture. C'est toujours sympa. C'est mis en avant par une école du libre.
Oui, qu'on en avait parlé récemment, ouais,
l'Open Source School. Je rappelle, open source, c'est la même chose que le libre. C'est juste que l'open source, c'est technique, alors que le libre, c'est éthique. On fait régulièrement les comparaisons, et donc il y a une raison pour laquelle on préfère le libre. Ça n'empêche, là, il présente de l'open source, qui est quand même intéressant, allez jeter un œil, c'est une jolie infographie.
Next Impact, le fisc ouvrira le code source de son calculateur d'impôts le 1er avril. Un article de Xavier Berne. Ce n'est pas une blague.
Non, mais c'est étonnant quand même parce que le fisc, il n'est pas connu pour partager ses informations comme ça.
Ouais, je crois qu'il n'a pas vraiment eu le choix en fait. Hein.
Manifestement, ils ont pris un parti assez intéressant. Donc, c'est une affaire conçue depuis longtemps. On le rappelle, il y a un chercheur qui travaille sur la fiscalité qui a demandé à obtenir le code source d'un logiciel développé en interne par le ministère du budget. Et la CADA, qui s'exprime sur les documents administratifs, avait dit oui. oui, c'est un document administratif, vous devriez y avoir accès. Ça a été un peu la guerre. L'April s'est beaucoup mobilisé là-dessus, même si ça s'est pas beaucoup vu, il y a eu pas mal de travail de fait pour essayer de pousser ça, et en disant bah, si on le diffuse, ce serait bien que ce soit sous licence libre. Ils étaient plutôt réticents, on avait des échos plutôt négatifs, et là, manifestement, ils sautent dans le grand bain.
Déjà, ils ont eu plusieurs décisions de justice hein, qui les a contraints un peu à ça, mais c'est vrai que ça les a poussés.
Contrat, ils pouvaient toujours bloquer.
Ils pouvaient bloquer, mais du coup, ils ont quand même préféré réfléchir, et du coup, ils vont sûrement s'ouvrir un peu plus que ce qu'ils faisaient d'habitude.
Parce qu'il faut avouer que c'est une forme d'engagement. Ouais. Quelque part, on va pouvoir vérifier le calcul des impôts avec des outils qui sont plutôt objectifs. C'est un engagement du point de vue du fisc. C'est plus facile de laisser un flou et d'ensuite laisser régler tout ça plus tard. Là, non, on met en avant et ça va probablement pouvoir déclencher d'autres choses derrière. Ce calcul-là peut vraiment être le début de tout un travail.
Donc, ce logiciel qui est surnommé en interne la calculette, donc code source est diffusé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils organisent un hackathon. Et on espère que le hackathon va marcher. Hein. L'idée, c'est de mettre des geeks dans une pièce pour qu'ils contribuent à ce logiciel.
Mais ça, c'est, donc, ça a été organisé par Etalab. Hein. Le hackathon est géré par Etalab. Et en fait, le gros problème, c'est que le code est un code qui est dans un langage maison. Et donc, la plus grosse partie du hackathon va être l'objectif de reconstruire le logiciel
peu,
à côté.
C'est pas que c'est un langage, c'est vraiment de description.
Ouais, c'est de la description, c'est vraiment.
Et en tout cas, Etalab, ils ont déjà fait un travail de dépiautage de ce truc-là. Et justement, le hackathon a une bonne base de départ. Honnêtement, Etalab, ils ont monté le forum. Hein, c'est eux dont on parle depuis plusieurs semaines. Ils se bougent, ils sont vraiment en pointe sur le libre et les administrations. C'est super intéressant. Et ce hackathon, on peut qu'espérer que ça va marcher.
Et à mon avis, ça peut donner des trucs assez fun derrière.
01net, dites-le aux filles, ça manque de femmes dans le numérique. Un article de Delphine Sabatier.
Ah bah, on a déjà parlé, mais c'est pas la même approche tout à fait. On en parlait parce qu'il y avait eu des comparaisons hommes-femmes sur la façon dont ils fournissaient du code au libre. Non, là, c'est juste que l'approche, il n'y a pas assez de femmes dans le numérique, clairement, il n'y en a vraiment pas assez.
Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, déjà dès l'école, hein, dans les filières informatiques, ou en tout cas techniques et industrielles, on en a très très peu, ça tourne aux alentours de 10% dans les écoles les plus peuplées. Donc ça manque vraiment vraiment de filles dans nos milieux, donc on a vraiment besoin d'avoir plus de monde. Et
sachant que c'est toujours aussi rageant, parce que la créatrice de l'informatique, c'est une créatrice, c'est Ada Lovelace, et que les premiers informaticiens étaient des informaticiennes qui travaillaient sur de la saisie certes de données, mais aussi de la programmation, réellement. Il y en a une très connue, Grasshopper, il me semble, aux États-Unis, amiral, ou vice-amiral, quelque chose comme ça, et elle est connue pour avoir contribué au démarrage de l'informatique. C'est pas rien. Et aujourd'hui, il y a eu une baisse, en fait, et il semblerait que ce soit encore le cas, une baisse du pourcentage des femmes dans les métiers techniques et numériques. C'est très embêtant.
Ouais, je suis tombé, c'est pas dans cet article-là, mais sur des graphiques qui montraient le nombre de femmes dans les différentes filières dans les universités américaines. Et on voit que même sur des trucs scientifiques, ça augmente. Et c'est bon, alors évidemment, les trucs juridiques sont un peu au-dessus, etc., mais qu'on a quand même une grosse augmentation, mais que sur l'informatique, au début des années 80, on a un décrochage vraiment très 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 marqué dans le domaine de l'informatique. Que je l'avais dit il y a quelques temps, il faut rappeler, il y a du boulot dans l'informatique, il suffit d'aller voir la petite infographie, parce qu'il y a des projections dans l'avenir, et par les temps qui courent, faites un choix, soit parce que vous êtes en train de faire vos choix d'études, soit parce que vous voulez vous recycler, allez dans un milieu où il y a de la demande. Libération, geek contre tsunami, quand la technologie répond aux catastrophes naturelles, un article de Camille Gévaudan. Et donc là, il n'y a que des gens qu'on connaît.
Voilà, il y a des gens qu'on connaît, donc avec Guadalugue, qui est un lug en Guadeloupe, le seul d'ailleurs, je crois. Donc ils font pas mal de choses, et là, en ce moment, ils travaillent en fait sur une simulation de tsunami, donc qui est organisée tous les ans de ce côté là-bas de la France, pour voir comment ça va se comporter, essayer de faire des exercices d'évacuation.
Organiser les communications.
Les communications et autres. Et donc là, il y a les Fab Labs, il y a le petit lug qui est là, justement, sur toute la partie technique, pour les outils de communication, mettre en place des pont Wi-Fi.
Oui, entre les îles, il y a des îles qu'ils ont réussi à désenclaver grâce à un pont Wi-Fi pour donner du réseau à des endroits où il n'y en avait pas d'habitude.
Voilà, donc c'est des types de Wi-Fi très particuliers, hein, c'est pas son Wi-Fi de la maison, c'est un Wi-Fi directionnel beaucoup plus puissant qui permet de communiquer sur des longues distances. Donc on retrouve Gaël Musquet, qu'on ne présente plus, hein, qui a été très impliqué sur OpenStreetMap et des choses comme ça. Et une autre personne qu'on peut citer, qui n'est pas dans l'article, mais qu'on connaît bien, il est venu dormir à la maison.
Oui, Olivier Ouetté, si tu nous entends. Donc effectivement, il contribue à tout ça de près, il organise largement. Ce qui est pas mal, c'est que y a un gros impact médiatique, on les écoute, ça fait vraiment parler. Dans les Caraïbes, ça doit être une des plus grosses organisations qui fait ce genre de choses-là. Donc vraiment, bravo, on peut applaudir parce que c'est impactant et c'est intéressant. Espérons par contre que ce ne sera pas utile tout de suite.
Eh bien, on a fait le tour de cette revue de presse de la semaine 10. Merci Manu.
Allez, la semaine prochaine, salut Nico.
Ouais, bonne semaine à tous.